Bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif. Marketing, opérations de com, entrepreneuriat, nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une grande figure du basket français, Diandra Tchatchang. Multiple médaille d'argent aux championnats d'Europe et médaille de bronze aux JO de Tokyo. Elle a récemment pris sa retraite et vient nous parler de son après-carrière et de ses engagements associatifs. Alors, bonjour Diandra.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien et toi?
Super. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de ta carrière, un petit peu jusqu'à ta fin de carrière récente?
Oui, moi j'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans, donc ça remonte un petit peu. À la Courneuve, en région parisienne, ça a été mon premier club, la ville là où j'ai grandi. Ouais. Au départ, c'était juste pour rejoindre les copines, s'amuser après les cours, et puis c'est devenu très vite une passion. Donc j'ai découvert le haut niveau à l'âge de 12 ans. Mmh. J'ai eu un cursus, je dirais, un peu classique. J'ai intégré les filières de haut niveau via le Pôle Espoir de mes 12 ans à mes 14 ans. Ensuite, j'ai passé 4 ans à l'INSEP jusqu'à l'obtention de mon bac en 2009. Et par la suite, j'ai intégré l'Université de Maryland aux États-Unis. C'est un choix, ça, que j'avais fait, un peu moins classique.
Au lieu de te lancer directement
dans le monde professionnel, Ouais, j'ai fait ce choix-là parce que j'avais à cœur de continuer mes études de jouer au basket à un bon niveau. Et le parcours, le cursus proposé par les universités américaines est un petit peu inédit, dans le sens où tout est vraiment aménagé, un peu comme ce qu'on connaît à l'INSEP, mais au stade des études supérieures.
Ce qu'il n'y a pas en France, pour le coup.
Ce qu'il n'y a pas en France, c'est vrai qu'en France, quand on veut suivre les études en parallèle, c'est souvent des démarches personnelles,
ouais,
qui ne sont pas forcément suivies, accompagnées. Mm-hmm. Donc c'est différent, c'est plus délicat, ouais, même si aujourd'hui on voit que c'est possible. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de tout nouveau. Mm. Et moi, voilà, j'avais envie de continuer mes études supérieures parce que, je ne sais pas, très jeune, finalement, j'ai su que c'était important de préparer
l'après.
La suite, ouais, l'après, que peut-être je deviendrais joueuse de basket professionnel, mais que tout ça, ce n'était qu'un temps et qu'il, ouais, fallait préparer l'après. Donc voilà, j'ai été aux États-Unis et quand je suis revenue, je suis passée professionnelle. J'ai joué pour les clubs de Montpellier, Perpignan et Bourges. J'ai terminé ma carrière d'ailleurs à Montpellier. Mm-hmm. J'ai intégré aussi en parallèle l'équipe de France senior. J'avais fait des équipes de France jeunes depuis l'âge de 16 ans, de 14 ans, pardon. Assez jeune, mais l'équipe de France senior, j'ai fait ma première compète en 2013, puis j'ai terminé sur les Jeux de Tokyo, du coup, mm-hmm, avec une médaille à la clé.
Magnifique.
Ouais.
Magnifique fin.
Ouais, c'est sûr qu'il y a pire.
Ouais.
Mais non, ça a été beaucoup de moments riches en émotions. Des hauts, des bas, mais vraiment beaucoup
pas de regrets.
Pas de regrets, beaucoup de reconnaissance surtout. J'ai été vraiment contente d'avoir pu vivre de ma passion. C'est pas donné à tout le monde. Au départ, comme je disais, le basket pour moi c'était juste une source d'épanouissement parmi d'autres. Et très rapidement, c'est devenu le focus principal.
Justement, à quel moment tu sens que c'est vraiment ce que tu veux faire dans ta vie?
Je pense que c'est...
À quel moment tu prends vraiment ça au sérieux, quoi?
Je pense que à l'âge de 11 ans, un petit peu avant que j'intègre le Pôle Espoir, donc la première structure de haut niveau que j'ai intégrée, et grâce à ma toute première coach, Sonia, qui à l'époque était celle vraiment qui me disait à ce stade-là, si ton objectif c'est ça, c'est très bien, c'est ambitieux. Tu pourras passer un cap là-bas et tout ça. Donc elle m'avait parlé du pôle, elle m'a parlé du fonctionnement, et moi tout de suite, c'est devenu un de mes objectifs. Et je pense que quand j'ai commencé à me fixer l'objectif de rentrer au pôle, le basket a pris une autre place dans ma vie.
Voilà, donc en fait c'est ta coach qui t'a ouvert cette voie-là, en fait, parce que sinon tu n'aurais pas su que c'était possible d'en faire ton métier, finalement.
Complètement, ouais. C'est vrai que je pense qu'on est énormément à avoir plein de talents, à avoir plein d'aptitudes, beaucoup de potentiel et que finalement les rencontres qu'on fait et les moments auxquels on les fait peuvent être aussi très déterminants. Très déterminants, et moi ça a été le cas. C'est vrai qu'à l'époque, si on ne m'avait pas parlé de tout ça, j'aurais continué à jouer au basket, mais sans plus de conviction que ça. Et donc, ouais, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et c'est des personnes aussi qui m'ont accompagnée dans cet objectif, dans ce rêve, qui m'ont vraiment...
guidée.
Qui m'ont vraiment guidée, qui m'ont permis de... qui m'ont aussi aidée à croire en moi, en mes aptitudes. Encore aujourd'hui, on fait plein de choses ensemble et je leur en suis vraiment reconnaissante.
Super. Donc, en fait, toi, tu as été, donc, comme je disais tout à l'heure, très investie dans l'associatif, très, très tôt, en fait. Et tu as toujours voulu un peu mettre en avant ton département. Apporter une lumière, redorer un peu le blason de ce département et apporter une belle lumière. Et donc, tu as créé le Study Hall 93, c'est ça ?
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Donc, Study Hall, c'est une association que j'ai créée en 2016. Je parlais de ma première coach, donc c'est avec elle que je l'ai faite, avec elle et avec ma maman. Et à la base, c'est un dispositif de soutien scolaire. Donc, je me suis mis un petit peu à la place de tous ces jeunes lorsque j'avais leur âge. Et le décrochage scolaire, malheureusement, c'est quelque chose qui touche encore beaucoup de jeunes sportifs aussi. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, quand j'avais 11 ans avant d'intégrer le pôle, finalement, si j'avais pas eu le basket, j'aurais clairement décroché scolairement. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de gens avec qui j'ai grandi qui ont décroché. Hein, parce que moi, je pense qu'il y a un facteur, chance aussi. Et comme je disais, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes.
Et donc, tu as voulu de rendre l'appareil, en fait.
C'est exactement ça, ouais. C'était l'idée. C'était comment pouvoir éloigner notre jeunesse des quartiers populaires, des mauvaises influences. J'ai commencé avec le club de basket de la Courneuve, là où j'ai commencé le basket. On l'a fait avec le club de taekwondo de la ville, avec le club de foot, avec la boxe.
Donc tu as ouvert ça à tous les clubs locaux, en fait.
Ouais, parce que je pense que ça touche beaucoup de monde et malheureusement, on ne sera jamais assez grand pour aider tout le monde, mais on a essayé de le faire à notre échelle et au fur et à mesure de monter, donc avec le basket naturellement en premier. Et puis après, par la suite, d'autres associations se sont montrées intéressées par le dispositif. Donc à la base, c'était ça. Et puis depuis maintenant un peu plus de 2 ans, on met en place des stages linguistiques.
Ouais, c'est ce que j'ai vu.
Qui ont lieu toutes les vacances scolaires. Donc en fait, on essaye d'enseigner les langues par le sport, donc l'anglais et l'espagnol. Pour l'anglais, ça va être au travers de la NBA, donc l'anglais américain. Et puis pour l'espagnol, au travers de la Liga, le championnat de foot espagnol. Et le but vraiment, c'est que grâce à ce petit bagage linguistique, les jeunes de notre association puissent... eux qui sont habitants de Seine-Saint-Denis, et on sait que dans moins de 2 ans maintenant, il y aura le plus gros événement planétaire.
Ouais.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui se passeront en partie en Seine-Saint-Denis. Le but, c'est vraiment que ces jeunes puissent y participer de l'intérieur et pas juste être spectateurs de ce qui se passe sur leur territoire.
Magnifique. Du coup, ça leur fait toucher du doigt quelque chose qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de faire autrement.
Complètement. C'est sûr que là, si on pense à court terme, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais dans quelques années, c'est un bagage, c'est sûr.
Ça peut donner envie de s'investir un peu plus dans le sport aussi.
Complètement.
Ça peut créer des vocations, quoi, clairement.
Ouais, c'est le but.
Ouais. Et t'es intégré en 2020 la commission des athlètes 2024. Tu peux un peu nous expliquer le but de cette commission, qu'est-ce que vous mettez en place?
La commission des athlètes, le but, c'est vraiment de proposer la meilleure expérience aux athlètes, à tous les acteurs finalement des Jeux Olympiques et Paralympiques, les spectateurs, les staffs, mais avant tout aux athlètes, et c'est pour ça que c'est une commission des athlètes, donc c'est faire
mieux. Vous êtes une vingtaine, je crois, dedans.
Ouais, c'est ça, on est une vingtaine, donc le but, c'est de... Ouais, pour parler clairement, faire mieux qu'à Tokyo, faire mieux qu'à Rio, et ainsi de suite, en proposant une expérience unique. Donc il y a déjà des choses qui ont été mises en place. On parle beaucoup notamment de cette parité qui sera une première homme-femme au niveau des athlètes lors des Jeux. Le but, c'est vraiment de penser à des façons d'innover pour que cette expérience
Soit la plus agréable
soit la
possible.
plus agréable possible pour les athlètes. Moi, je suis vraiment au niveau de la partie héritage, parce que comme je disais, c'est vraiment important, je pense, que les habitants de Seine-Saint-Denis puissent être acteurs de ces jeux et pas seulement
Spectateur.
spectateurs, qui puissent y participer avant, pendant et surtout après, savoir quel héritage on laisse à la population. Donc voilà, on discute de tous ces sujets et on essaye de partager un maximum nos expériences à titre personnel sur les Jeux, les Olympiades auxquels on a pu participer chacun.
Super. Tu as aussi été à l'initiative d'un événement avec l'équipe Nike, ton sponsor, Take Your Shot. C'est donc pareil, toujours dans la même démarche de transmettre et d'inspirer d'autres jeunes filles à suivre la voie du basketball potentiellement. Et est-ce que tu peux nous dire comment est né en fait Take Your Shot?
C'est pareil, c'est né d'un constat un petit peu comme pour Studiol, le dispositif de soutien scolaire. C'est né d'un constat en fait où je me suis dit qu'est-ce qu'il me manquait lorsque j'étais plus jeune, que j'étais à la Courneuve, que je savais pas trop ce que je voulais faire, que j'avais pas conscience finalement que le basket ça pouvait devenir mon métier, tout mon univers. J'ai réfléchi à ce qui me manquait et du coup j'ai essayé de mettre en place une journée. Qui permet premièrement d'initier des jeunes filles au basket. Donc il y en a qui en font déjà, il y en a qui n'ont jamais fait de sport, jamais fait de basket. Donc qui découvrent le basket et le but de cette journée vraiment avec Nike, c'est de promouvoir la pratique féminine sportive. Donc à la fin de l'événement, il se passe toujours en septembre parce que c'est le moment où on s'inscrit au sport et c'est le moment de la rentrée. Et le but, c'est vraiment de les encourager à prendre leur licence et que cet événement, qui est ponctuel du coup, deviennent une habitude avec les licences qu'elles auront prises à pouvoir aller s'entraîner régulièrement, deux fois par semaine, avoir match le week-end, vraiment s'imprégner de cette culture sportive. Donc c'est le but d'ailleurs, Nike, qui est mon sponsor principal, nous permet finalement d'offrir aux jeunes filles 50 € sur la licence.
Ah, c'est
Parce
super.
que ben, on se rend compte, même si c'est tabou, c'est important d'en parler, que pour
C'est
beaucoup de foyers, c'est le frein.
souvent le frein principal, en fait.
Ouais, pour beaucoup de foyers, c'est vraiment des fois, quand on a un enfant ou plusieurs,
On peut
ben, on ne
pas
peut pas se
offrir
permettre
à tout le
de
monde, quoi.
l'offrir à tout le monde. Donc finalement, on
On
l'offre
l'offre
à
à
personne
personne.
pour être le plus juste possible. Et c'est dommage. Donc on essaye de remédier à tout ça avec ce petit cadeau. Et puis pour moi, il y a vraiment une dimension éducative sur la journée. Le moment que moi je préfère personnellement, même si les jeunes filles elles viennent pour se dépenser, pour s'amuser entre elles, c'est le moment du talk.
Ouais,
Enfin,
t'invites des personnalités, mais
c'est
pas
ça.
forcément liées au
Au
sport, en fait.
basket, au sport, ouais. Ouais, c'est vraiment le but de faire venir des personnalités féminines inspirantes qui ont réussi dans leur milieu, qui des fois ont réussi à s'imposer dans des milieux dits masculins. On a fait venir là dernièrement Romane Dicko et Taras Bodhi qui ont vraiment bien parlé de la confiance en soi, de l'acceptation de soi, parce que toutes les deux, elles ont c'est des thématiques qui leur parlent. Et on sait que quand on est une jeune fille, quand on a entre 11 et 15 ans, c'est des questions qui nous embêtent parfois, dont on n'ose pas trop parler. Donc le but, c'était vraiment d'ouvrir la discussion, qu'elle puisse se sentir à l'aise. C'est pour ça que c'est un événement aussi, il n'y a que des filles.
Ouais, c'est ce que j'allais te
Pour
demander.
l'instant, on verra si un jour on évolue,
Ouais, pour
mais
l'instant, tu veux te focaliser sur les jeunes filles et leur
c'est
donner
ça.
vraiment la place de s'épanouir, quoi.
C'est ça, au départ, l'événement, il a toujours été 100% féminin. Et en fait, moi, c'est vraiment la première édition qui m'a confortée dans le
Dans
fait
ce
qu'il fallait
choix.
que ce soit que pour les filles. Parce qu'on parle vraiment de sujets, des fois, où je sais qu'elles les aborderaient pas
S'il y
si
avait
on
des
n'était
hommes.
c'était pas entre nous. Mmh. Et on a parlé notamment la première année et par la suite aussi d'harcèlement, d'agression. Et ça a été aussi pour nous le moment de leur dire que voilà, si elles connaissaient des personnes qui l'avaient subi ou si elles-mêmes l'avaient subi, eh ben on était des portes ouvertes pour qu'elles puissent venir se confier, que c'était important de le faire. Mm-hmm. Donc, en fait, ouais, il y a cette intimité qui est aujourd'hui, pour moi, indispensable. Mm-hmm. Et du coup, ce moment-là de talk, je fais venir des femmes inspirantes de tous les univers, parce que moi, je sais que j'ai eu la chance que pour moi, le basket, ça marche, le sport. Mais si je prends les filles qui ont commencé avec moi, de ma génération, on est peut-être deux. À avoir atteint le monde professionnel, l'équipe de France. Donc finalement, tout le monde ne pourra pas devenir basketteuse professionnelle. Ça, je pense qu'elles le savent, mais c'est important de le rappeler. Et le but, c'est qu'elles puissent se dire que peu importe le domaine dans lequel elles auront envie d'exceller, si elles y croient et qu'elles se donnent les moyens, c'est possible pour elles aussi.
Ouais, donc c'est plus pour c'est un événement pour inspirer, pour faire rêver les jeunes filles, quel que soit leur domaine. Mais j'ai vu qu'aussi tu voulais un peu étendre Take Your Shot sur une plus longue durée. Parce que là, c'est juste une journée et je crois que j'ai vu que vous vouliez l'agrandir en plusieurs semaines.
Ouais, c'est ça.
Comme genre de formation, quoi.
C'est un peu ça, en fait. C'est vrai que là, l'événement est ponctuel depuis 6 ans. C'est très bien parce que je pense que c'est un petit peu, c'est devenu un petit peu le rendez-vous incontournable pour ces jeunes filles, cette tranche d'âge-là. Mmh. Mais on avait envie de faire quelque chose d'encore plus ciblé. Aujourd'hui, Take Your Shot, on a commencé en 2016 avec 60 participantes. Aujourd'hui, on est à 200 participantes. On réfléchit même à changer d'endroit parce qu'on veut toucher encore plus de jeunes filles. Mais à côté de ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de plus ciblé, notamment pour les jeunes filles qui ne font pas du tout de sport, qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. Donc la première édition a eu lieu cet été. Mm-hmm. Donc de juin à septembre, pendant 4 mois, 40 jeunes filles, 20 jeunes filles de la ville de Stein et 20 jeunes filles de la ville de Beson. Les villes changeront, mais on a commencé sur ces villes-là. Et en fait, on réunit ces jeunes filles tous les week-ends. Donc, c'est mis en place par l'association Rise Up, qui est une association qui organise des événements sportifs, mm-hmm, et qui organise aussi l'événement Take Your Shot. Et du coup, pendant tout l'été, ces jeunes filles, avec les bénévoles de Rise Up, elles ont pu s'initier au basketball tous les samedis. Donc, il y avait des sessions tous les samedis de l'été. Il y avait aussi
comme si elles étaient en club, en fait.
C'est ça. Parce qu'en fait, on se dit que une petite fille qui n'a jamais fait de sport, l'événement, ça va être top, elle va s'amuser. Mais derrière, si elle ne sait pas ce que c'est que...
Elle n'aura pas la vision
Toutes les semaines, aller à l'entraînement, sortir un petit peu de sa zone de confort, même si après, ça devient plaisant. Mais il y a cette période d'adaptation. Mm-hmm. Et souvent, on n'aime pas sortir de notre zone de confort. Donc finalement, c'est ce qu'on a fait avec le président de l'association Rise Up, qui a créé ce programme. Step One, et qui permet en fait vraiment d'initier les filles. Et en fait, au fur et à mesure du programme...
C'est trois étapes, je crois.
Ouais, c'est en plusieurs étapes. En fait, au fur et à mesure du programme, on essaye de les sortir maximum de leur zone de confort. Donc au départ, elles s'entraînent avec les jeunes filles qu'elles ont rencontrées le premier jour, tous les samedis. Et puis à un moment donné, dans le programme, on essaye... dans des clubs, donc dans le club de leur ville. Donc elles découvrent d'autres fonctionnements, elles doivent s'habituer aussi à jouer avec d'autres jeunes filles. Et puis on a associé à ça des sorties culturelles et sportives. Donc pour beaucoup qui n'avaient jamais mis les pieds sur un terrain de basket, cet été elles ont eu la chance de participer par exemple au match de l'équipe de France garçons à Bercy, dans une ambiance incroyable. D'ailleurs, elles aussi elles ont mis l'ambiance. Mais on essaie vraiment de leur faire aimer le basket et de leur faire découvrir aussi tout l'univers qu'il y a autour
de la
culture basket. Ouais.
Pour vraiment les baigner dans le dans la culture basket.
C'est ça.
Donc toi, tu es vraiment impliquée dans pas mal de trucs. T'as aussi créé un nouveau podcast aussi qui s'appelle Super Humain. Mm-hmm. où tu mets en avant justement des athlètes qui soit ont été blessés, qui ont eu des coups durs, enfin voilà, pour montrer vraiment l'envers du décor un peu de la vie d'athlète.
Ouais.
Comment est née cette idée quand est-ce que tu as eu envie de faire ça?
Ben, c'est né un peu par hasard, parce que c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé moi-même. C'est un ami qui a une société qui s'appelle Moments, et ils font un petit peu tout ce qui est audiovisuel, podcast, talk show et plein de choses dans ce style-là. Et en fait, ils m'en ont parlé, ils m'avaient proposé un thème, et moi je leur avais dit... ça peut m'intéresser de faire un podcast, mais j'ai pas envie de parler ce dont tout, quasiment, les médias mainstream parlent. Je veux vraiment faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, d'entendre. Et du coup, ils m'ont laissé carte blanche un petit peu sur le thème. Eux, ils m'accompagnaient juste au niveau de l'édition, des inspirations aussi, puisqu'ils ont plus l'habitude que moi de ce milieu-là. Et puis en fait, moi j'ai eu envie de faire un podcast autour des histoires un peu extra-sportives. Ça s'appelle Super Humain et ça porte bien son nom parce que le but c'est de mettre en avant, mettre en lumière des histoires de sportifs ou anciens sportifs qui ont traversé des moments difficiles, très difficiles parfois, et qui ont réussi à se relever pour deux raisons, parce que on ne voit pas souvent cette face-là.
Du sportif
de haut niveau.
De haut niveau.
Souvent, sportif, c'est associé à force,
réussite.
Et il n'y a pas... On oublie l'aspect humain. On oublie que le sportif, c'est aussi un être humain. C'est pas seulement un robot, que lui aussi, il tombe, mais qu'il arrive à se relever. Et le deuxième objectif, c'était justement, par ces histoires, réussir à inspirer les personnes qui pouvaient vivre la même chose. Parce qu'on a eu des... Je pense à Aristide Barrault, qui est un ami aujourd'hui, qui est un ancien rugbyman du Stade français, qui a failli perdre la vie lors des attentats... de 2015, qui était sur une terrasse de restaurant, qui a reçu plusieurs balles de Kalachnikov, et c'est un miraculé, vraiment, Aristide. Et son histoire, elle est juste, c'est une leçon d'abnégation, de résilience. Et je pense qu'à travers ces histoires, sportifs ou pas, finalement, on peut s'identifier et réussir à se relever quand on tombe. Donc c'était vraiment le but du podcast. Et là, c'est en pause parce que je suis en train de réfléchir à d'autres moyens de mettre ces histoires en valeur, avec notamment de la vidéo. Mais du coup, ça prend un petit peu de temps.
Un nouveau projet en cours, quoi.
Ouais.
Ah, super. Et justement, en parlant de résilience, de blessure, toi, tu as dû mettre fin à ta carrière à cause d'une blessure, pas forcément parce que tu voulais spécialement arrêter. Mm-hmm. À quel moment tu t'es dit déjà que fallait que tu mettes un terme à ta carrière et pas, je veux dire, continuer à être patiente et attendre peut-être d'aller mieux, peut-être.
Ben, c'est une décision qui s'est faite un petit peu par étapes. Ça n'a pas été une décision prise sur... pas facile, ouais, et pas prise sur un coup de tête. Du coup, je pense que vu qu'elle a été vraiment réfléchie, j'ai pu la prendre en toute sérénité, on va dire. Donc, en fait, j'avais des problèmes de genoux qui devenaient de plus en plus problématiques, de plus en plus pesants. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé, ça a toujours été ma façon de penser. Avant même d'avoir commencé ma carrière, je me disais, il y a une suite à préparer. Et du coup, lorsque j'ai continué à avoir ces problèmes de genoux, j'ai eu deux croisés en fait, un à chaque genou, et du coup j'allais dire les ligaments croisés, c'est une blessure qui t'éloigne longtemps du terrain, mais c'est devenu un petit peu
commun,
un peu pas bénin, mais on sait comment ça se soigne. Sauf que finalement, moi, ça m'a énormément impacté au niveau de mes cartilages, au niveau de mes articulations, au niveau de mes tendons.
Ouais, donc t'as plus de mal à récupérer cette blessure, quoi.
C'est ça. Et année après année, mon cartilage fusait. Le cartilage, c'est pas quelque chose qu'on peut changer. Donc même les traitements qu'on met en place, que ce soit les injections de gel, toutes ces choses-là, ça ne fonctionnait plus tellement sur moi. Et je me suis dit, bah, en fait, il y a une vie après le basket. Mmh. Et cette vie après le basket, ça fait un moment que je la prépare. Voilà, peut-être que demain, ce sera pas du basket, mais j'aurai la chance de continuer à m'épanouir dans ce que je fais. Donc, c'est un cheminement qui s'est fait un petit peu de cette façon-là. Et puis, j'avais aussi un petit peu fait le tour de ce que j'avais envie de faire dans le basket. Donc, comme je redis, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que j'ai pu vivre grâce au basket, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Mais je pense que j'arrivais vraiment à la fin. Même mentalement, j'avais envie de voir autre chose, de découvrir d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai la chance de le faire. C'est des choses que j'aurais pas pu faire, c'est sûr, si j'avais le rythme d'une carrière
De haut niveau.
de joueuse de basket professionnelle. Donc ouais, ça s'est fait étape par étape. Elle a été longuement mûrie, ma réflexion. Et puis ouais, finalement, quand on me demande aujourd'hui, je dis même pas que j'ai arrêté à cause de mes genoux.
Ouais, c'est
C'est
donc
un
pas du
tout.
tout à cause de
Ouais.
tes genoux, en fait.
C'est
C'est quelque chose, c'est une des raisons, mais
sûr. C'est
c'est pas
peut-être
la
ce qui a
principale.
motivé la décision au départ, mais finalement, c'est vraiment un
Après
tout.
réflexion, ouais.
Ouais,
C'était la suite
c'était
logique.
la suite logique pour moi.
D'accord.
Ouais.
Et justement, comment justement en tant que sportif, on se dit une blessure, enfin on va peut-être perdre des sponsors, perdre un peu, genre justement ça, sortir de sa zone de confort à nouveau. Comment t'anticipes ça justement comment t'appréhendes le fait de gérer ton image après, comme voilà, la suite quoi, l'après-carrière, comment tu le gères?
Ben c'est vrai que pour un sport comme le basket, où c'est un sport professionnel, contrairement à d'autres sports individuels où finalement l'apport des sponsors il est énorme, il est essentiel même, indispensable, le basket en fait, c'était mon métier. Donc finalement, tant que j'étais joueuse de basket, je savais comment je terminais mon mois à chaque
Voilà.
fois, blessé ou pas d'ailleurs, parce que voilà, on est en France et que le système fait que ben, quand tu es en arrêt, tu continues d'être payé. Après, je pense que c'était plus dur mentalement pour moi. J'étais pas tellement axée à ce moment-là sur les sponsors. C'était plus dur mentalement pour moi de regarder les matchs de loin et quand ça se répète, ça te fait te poser des questions. Est-ce que finalement ma place elle est encore là? Donc c'était plus dur à ce
C'était
niveau-là.
plus mental, toi.
C'était plus mental. Et finalement,
T'as
ben,
été suivi
j'ai
ou...
été suivie par un préparateur mental. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose quand on sent qu'on a besoin d'une aide extérieure, ben voilà, de pouvoir se confier, de pouvoir aussi recevoir des clés pour faire face ben, à toute cette pression un petit peu que le sport ou la blessure peut amener.
Engendrer, ouais.
Après, je suis quelqu'un qui est, voilà, je suis croyante, donc finalement ma foi en Dieu m'a beaucoup aidée à passer au-dessus de tout ça et à voir les choses avec beaucoup plus de grandeur et à pas m'arrêter finalement à bah tu peux pas jouer, t'as arrêté quelques mois, oh, tu dois te faire opérer. C'est vrai qu'au début ça a toujours été difficile de recevoir ces nouvelles-là quand tu apprends que tu te fais les croisés, que tu vas te faire opérer
Là,
et que tu
j'imagine.
sais déjà ce que c'est et que tu vas
Tu sais
devoir
combien de temps
être
ça doit
voilà,
durer,
tu sais comment c'est frustrant, tu connais chaque étape à force. Mais ouais, c'est vrai que ma foi en Dieu m'a toujours permis de relativiser, peu importe la situation. Donc d'une situation difficile au départ, j'ai toujours voulu en faire quelque chose de positif. Mon deuxième croisé, je crois que ça m'arrive juste avant les 6 mois avant les Jeux de Tokyo, de Rio.
De Rio, ouais.
En 2016, à ce moment-là, mon monde s'écroule. Et
T'étais plus
puis,
jeune aussi,
ouais, je
donc...
suis plus jeune en plus. Et puis, ouais, les Jeux Olympiques, c'est le rêve de n'importe quel athlète, je pense. Donc, quand ça m'arrive à ce moment-là, j'ai vraiment vu mon monde s'écrouler. Et puis, non, je me suis accrochée à tout ce que j'avais fait pour
Pour en
en
arriver jusque
arriver
là, ouais.
là. Je me suis vraiment accrochée à plein de choses, mais la chose vraiment qui m'a permis de sortir la tête de l'eau, comme on dit, c'est Dieu, c'est ma foi en Dieu. Et puis ça m'a permis d'essayer d'être productif, parce que souvent, quand tu te blesses dans un sport d'équipe en plus, tu as vraiment l'impression de servir à rien.
Ouais, c'est facile
C'est
de tomber dans la
ça.
dépression, de s'isoler.
C'est ça, ton sport, c'est ton outil de travail. Et en fait, bah, comme je disais, quand tu te blesses, souvent tu es sous contrat. Donc, même si tu es blessé, tu continues d'avoir un employeur, tu continues d'avoir une équipe à côté de toi qui s'entraîne. Et je pense que contrairement peut-être à un sport individuel où des fois bah, tu coupes complètement, bah, là non, tu vas à la salle, tu vois les filles s'entraîner, tu vois les filles jouer, performer, et puis toi tu es là à attendre que ton heure arrive, et des fois elle arrive tardivement. Du coup, ça a été vraiment difficile, mais moi je voulais pas être là à attendre et à me morfondre un
Et
petit
alors,
peu.
qu'est-ce que tu as fait pour...
Ben, j'ai créé des choses.
Voilà,
J'ai créé des choses. J'ai pensé à. C'est à ce moment-là, hein, après ma blessure en 2016, que j'ai créé Take
que
Your Shot.
ouais, voilà.
Ouais.
Donc,
Et c'est quelque chose, je
d'une
suis.
blessure est née finalement
C'est
une super
ça.
initiative.
C'est ça. Aujourd'hui, j'aurais jamais pensé que ça aurait eu cet impact-là. J'aurais jamais pensé qu'on aurait grandi comme ça. J'aurais jamais pensé que Nike nous aurait accompagnés de la façon dont ils le font. Donc finalement, ouais, c'est super important, je pense, de toujours faire d'une situation qui peut paraître au départ difficile, où on voit que des aspects négatifs, c'est toujours important de réussir à la transformer en une situation positive et vraiment ne jamais blâmer une contrariété.
Et aujourd'hui, c'est quoi tes projets à court terme, moyen terme, long terme?
Mais j'ai pas mal de projets au niveau toujours associatif, notamment la création d'un orphelinat au
Au
Cameroun,
Cameroun, ouais.
mon pays d'origine. J'ai jamais trop réussi à. Je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans l'humain, beaucoup dans le social, et je l'ai énormément fait ben là d'où je viens, en Seine-Saint-Denis. Mais je viens aussi du Cameroun, et je suis très accrochée à mes racines, et j'ai jamais su vraiment comment faire quelque chose là-bas, mener une action qui
Avoir du
pouvait
sens.
avoir du sens, ouais. Et c'est vrai que l'orphelinat, c'est quelque chose auquel je pense depuis, je pense, 7 ans maintenant. Et c'était pas possible en carrière parce que moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire moi, pas que ce soit fait par quelqu'un d'autre, parce qu'on sait à quel point c'est une responsabilité, hein. Et il se trouve que mon mari, de la même façon, avant même qu'on se rencontre,
A le même
avait le même rêve,
Le même
construire
projet, bah c'est génial.
un orphelinat en Afrique. Donc c'est vraiment quelque chose qui occupe beaucoup mes pensées. Après, je fais pas mal de trucs avec la télé aussi, au niveau en tant que consultante avec Canal Plus. Il y a des choses à venir à ce niveau-là aussi. Mais je découvre plein de trucs. Je sais pas exactement ce que je veux faire encore, mais c'est vrai que je découvre pas mal de nouveaux trucs. La télé, c'est pas quelque chose.
Auquel tu pensais avant?
Ouais, j'y allais en tant qu'invité une fois de temps en temps, mais voilà, quand ça devient entre guillemets un peu ton job, c'est une autre préparation, c'est une autre approche.
Bah oui, parce qu'en
Donc,
fait, tu t'interviens en tant qu'experte maintenant dans ton domaine.
c'est ça, donc c'est complètement nouveau, et il y a le terrain, il y a à côté. Et voilà, je fais pas mal de petits trucs comme ça, et puis je vais voir
Ou
ce que.
peut-être un take your shot au Cameroun aussi.
Ça serait
Ça
top,
pourrait
hein.
être une
On a
idée.
fait la première édition hors de Paris
Ah, c'est
à
bien.
Montpellier avec l'équipe de Rise Up, l'association qui organise l'événement, qui est venue à Montpellier. Ça a hyper bien.
Elle donne des ailes, c'est ça, non? Non, ça
Non.
c'était une journée avec, j'avais vu avec Montpellier.
Oui, ils avaient fait. C'était une autre manifestation
C'était, ouais.
locale à Montpellier
Ok.
directement. Et Rise Up est venu pour la première édition à Montpellier, qui a très bien fonctionné. D'ailleurs, on est en train de réfléchir peut-être
Pour
pourquoi
en
pas
faire d'autres.
à d'autres éditions, mais surtout à d'autres éditions hors de Paris, donc le Cameroun un jour, pourquoi pas.
Bon, bah, écoute, le mot de la fin, est-ce que tu aurais quelque chose, enfin, pour les jeunes filles peut-être qui te suivent, ou le mot de la fin, quoi, je te laisse le mot de la
Moi, le mot qui me vient, enfin les mots du
fin.
coup
Ouais.
qui me viennent un petit peu instinctivement comme ça, c'est vraiment leur dire de rester elles-mêmes, de rester elles-mêmes, parce que c'est ce que je dis aux filles, aux jeunes filles qui participent à Take Your Shot. On est dans une société aujourd'hui où ben, on veut ressembler à un modèle, on veut ressembler à ce qu'on n'est pas, très souvent. Et moi, je veux leur dire que voilà, il n'y a rien de mieux que d'être soi-même, d'être authentique. Et c'est parce que on va être nous-mêmes que finalement, on va se rapprocher de choses qui nous ressemblent. Et je pense vraiment que c'est de plus en plus important de réussir à ne pas vouloir être quelqu'un d'autre. Et la société a tendance à nous pousser à faire tout ça, mais je pense qu'on est toutes différentes et c'est nos différences vraiment qui font nos forces toutes ensemble. Donc non, moi si je peux leur donner un conseil, c'est de rester elles-mêmes, de croire en leurs rêves et d'aller chercher la place qu'elles méritent.
Super. Bah, merci beaucoup en tout cas de ta présence. Merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci à toi.
Et c'est la fin de ce podcast. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.